L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
C'est fourbu mais fier que nous arrivons au terme de deux heures d'un coup. Pourquoi vous rigolez, Bruno Solo?
Fourbu mais fier.
Fourbu mais fier, oui.
Il y a quel truc médiéval dans la création.
J'ai essayé d'être médiéval en rapport avec votre livre, vous avez compris. Hein,
merci. Bon, bref.
Un combat journalistique dont l'issue sera fatale à certains. Puisque l'heure du dénouement a sonné, Bruno Solo, notre grand arbitre du jour, va nous dire pour qui il a voté, Jérôme Lacroix, Ève Roger, Jean-Philippe Ballas ou qui c'est, Mathieu Charrier.
J'ai pas voté pour lui, c'est un con.
Oui, attendez Bruno. Non, ils ont encore une chance d'arracher votre vote. C'est leur dernier mot, Bruno. Une séquence qui s'appelle comme ça, même quand l'invité s'appelle pas Bruno. Ève Roger, pourquoi Bruno Solo doit-il voter pour vous?
Oh non, mais je vais vous allez encore me piéger. Il a l'air d'avoir 30 ans, c'est ça?
32, bien joué, un point pour vous. Jean-Philippe Ballas, pourquoi Bruno devrait-il choisir votre sujet?
Ah mais moi je fais de la figuration ici, donc il n'y a pas de problème.
Non, soyez combatifs.
Parce qu'on est de la même génération.
Ah,
ça peut jouer, ça ne jouera pas, mais ça
peut être le même âge. Mathieu Charrier, qu'est-ce qui rend votre sujet si singulier?
Comment ne pas encourager l'antisexisme au cinéma? Je comprends pas comment il peut ne pas voter pour
ça. Ah oui, ça serait presque limite, ça poserait
les féministes
des questions.
Apprécieraient.
Ah, c'est assez bien joué de votre part.
Et les magots, ils ont déjà perdu. Mais
Jérôme Lacroix, pourquoi il faut voter pour vous, Jérôme?
Parce que moi, je suis en CDD d'usage ici. J'ai CDI dans la balance. Non, mais au nom de la formidable histoire de ce jeune homme,
bien sûr. Bien sûr.
Champion.
Alors, moi, je vais vous dire la vérité, moi.
Alors, attendez, parce que pour l'instant, vous n'avez rien dire du tout. Parce
d'accord, j'ai juste bien fermé ma gueule.
Il y a une scénarisation dans cette émission.
Tu vas déjà commencer par fermer ta gueule.
Et Baroque.
Et seulement après, tu te permets.
Exactement.
C'est ça.
Mais soyez cette vilaine peau. Et Baroque, on dévoile d'abord le choix des auditeurs.
Eh bien, à 35% pour Ève Roger.
Allez, comme mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun suspense quand Ève Roger dans cette émission.
Alors, c'était à un point près avec Mathieu Charrier.
En fait, ne lui dites pas, c'est encore pire pour lui, c'est terrible. Deux points donc pour Ève Roger. Pour ma part, mon point va aujourd'hui à Jean-Philippe Ballas qui m'a appris dans la même journée ce qu'était un mème et ce qu'était ce slogan
okay boomer.
Mais ne vous foutez pas de ma gueule sinon j'enlève le point. Allez, on comme ça, hein. Je décide tout ici. Mais vous le savez, ici le dernier mot revient à notre invité d'honneur, Bruno Solo. Soyez ferme mais juste comme Henri IV. Ou juste ferme comme Henri III. 22 mecs qui ont eu 17
ans. Vergalant, vergalant.
Dites-nous en toute franchise qui selon vous mérite d'être élu chroniqueur du jour.
Bah écoutez, je suis vraiment face à un vrai dilemme. Ève Roger m'a passionné avec son histoire et en même temps, voilà, moi je suis pas un vrai buveur donc je me sens pas concerné. Mathieu Charrier me parle effectivement des problèmes de sexisme dans le cinéma. Je suis un défenseur vraiment du féminisme donc
toujours.
Je me sens pas non plus concerné. Jean-Philippe Ballas m'insulte en me traitant de boomer, il m'a même pas dit bonjour. Il me dit déjà t'es un vieux con. Et l'ami Jérôme me parle d'un sportif que je n'ai jamais vu. Évidemment, c'est un très mauvais jeu de mots, bien entendu. Le seul qui s'est véritablement adressé à moi, à mes papilles, à mes envies, à mes goûts et tout, c'est Olivier qui ne participait pas avec ses envies braisées au café.
Olivier Pouls.
Mais Olivier Pouls, en plus, il y a une belgitude chez lui qui me touche particulièrement. Donc j'ai envie de lui donner 3 points qui n'existent pas.
Oui,
parce que je n'ai pas envie de choisir entre les 4 parce que vous avez tous été formidables. Donc,
c'est la régie qui doit me dire si c'est possible ou pas, une dérogation
par
exceptionnelle.
Par lâcheté, pour ne pas avoir à choisir entre Ève, Mathieu et Jérôme et Jean-Philippe, je choisis Olivier,
vous
parce que je fais ce que je veux.
Eh bien, Bruno, je vous ferai ces endives. Vous viendrez les manger quand vous voudrez, avec du pommard et tout ce que vous voulez.
Ah,
merci.
Là, il s'est passé quelque chose d'incroyable au niveau sportif, c'est-à-dire qu'Olivier Pouls a tenté de plier la jambe pour se mettre au niveau du micro, et il a réalisé, ce faisant, que sa masse musculaire ne lui permettait pas ce geste. Merci à tous, Olivier Pouls, c'est le champion du jour de l'équipe sauvage. Petite leçon d'histoire sur le café. Je me suis permis de rajouter un son. D'où vient le café, Olivier Pouls?
Mais évidemment, avant de répondre à cette question, je vais le faire. Caméra café, j'ai une petite question à poser. Vous en avez bu combien de litres pendant tous ces tournages?
On n'en buvait pas. On n'aurait pas pu.
C'était la flotte?
Non, on buvait soit de l'anthésite, soit des. À la fin, je m'étais rendu compte qu'en fonction de la manière dont vous positionnez on mettait de l'eau. Non, c'était un peu. Il y en a qui ont bu du coca à un moment.
Ouais,
ils ont tous échopé des caries, échopé des mines et tout. Enfin, c'était terrible. Et ceux qui buvaient du café, mais ils terminaient la journée dans un état, c'était pas possible. Donc, non. On buvait de l'eau, en fait. On buvait de l'eau.
Eh bien, en tout cas, votre série n'aurait jamais vu le jour si l'Éthiopie ne nous avait pas apporté le café. Car c'est
ça
bien
vient
d'Éthiopie que vient le café. Et c'est une consommation, en fait, assez récente, puisque c'est vers le 15e siècle qu'on a les premières traces de consommation de café. Alors, il va venir en Europe bien plus tard, chez les Vénitiens au XVIIe et en France en 1669. Il a d'abord des vertus thérapeutiques, cet homme, un produit qu'on connaît pas bien. Il a pas, en tout cas, on n'a pas le goût du café. Et donc, on va l'utiliser en un premier temps comme produit thérapeutique.
D'ailleurs, c'est ça qui me fascine, moi. C'est comment, d'un produit de base aussi, voilà, du café, on s'est dit, en le torréfiant, en le faisant ceci, on va tirer une substantifique jus, tu vois, je sais pas
un
quoi.
Mais substantifique
un jus substantifique.
Si tu peux me le redire juste en
je le referai plus. C'est pas ce que je voulais dire en plus. Non, mais c'était dingue. C'est dingue. Mais même une patate, quand tu découvres une patate comme ça, c'est dégueulasse.
Il faut Bruno, un escargot, plein de le premier type qui s'est dit, il a vu l'escargot, il s'est dit, je vais bouffer ça.
Ah non, mais là, c'est du vice. Ah ouais. C'est des vices, ça n'a rien à voir avec une patate.
Voilà, c'est vrai qu'entre une patate et des frites, il y a quand même un petit cheminement.
Mais
quoi.
Bien sûr, mais bien sûr, et le café aussi, pardon pour cette intrusion.
Ben oui, parce que le café, en fait, c'est surtout l'invention du moulin à café en 1687 qui va permettre une autre consommation du café. Oui. Alors au début, il y a deux manières de le faire. On le fait à la manière turque, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une décoction. On prend du café qu'on laisse dans l'eau et ensuite, on attend qu'il se dépose et on boit cette espèce de mixture qui là pour le coup est très amer. Et puis nous les Français, on invente la manière contemporaine de le boire, c'est-à-dire de le filtrer.
C'est les Francaouis qui ont inventé ça.
Le premier café, le lieu café, vous l'avez ça?
Alors en Europe, c'est Constantinople, 1550, c'est daté. Et en France, on peut toujours y aller. C'est le Procope.
Non, c'est le premier café.
C'est le Procope, ouais, en 1686. C'est le premier café en France et à Paris. Alors, qui devient évidemment un lieu où on consomme du café, mais d'autres boissons, bien sûr. Et puis, où on devise, on joue aux échecs, on refait le monde, voilà.
Pouls, on dit toujours que le café, il y a toujours des études qui sortent toutes les deux semaines pour nous dire que le café est soit excellent pour la santé, soit pas bon du tout pour la santé. Est-ce que vous pouvez trancher, vous, en tant que scientifique belge?
Oui, en tant que scientifique. Bien évidemment. Non, les dernières études s'accordent à dire qu'une consommation modérée de café serait plutôt bonne pour la santé, parce qu'il y a notamment des antioxydants dans le café. Alors, il y a évidemment des stimulants, mais trop de café...
Mais c'est quoi trop et pas assez? Par exemple, moi, je prends 6 cafés par jour, c'est trop?
Je pense qu'il y en a peut-être 2 de trop.
Ouais. D'accord, c'est 4
voilà, entre 3-4 tasses de café. Et puis là aussi, ça dépend comment on le consomme, parce qu'il y a des idées reçues par rapport au café.
Moins il y a de café.
Exactement, exactement.
C'est une fausse idée.
Le café léger, en fait, c'est le café qui t'empêche de dormir. Vaut mieux boire un expresso le soir avant d'aller te coucher qu'un grand café un peu léger.
Car il
n'y a que de la caféine. Il n'y a plus le.
Mais il n'y a plus la substantifique.
Le substantifique jus. Pour finir.
Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est qu'il en est du café. On parlait du vin tout à l'heure, mais il en est un peu de la même chose pour le café. C'est-à-dire qu'il y a deux grandes variétés de café. Il y a l'Arabica et le Robusta. Et puis après, il y a une déclinaison énorme de terroirs. Parce qu'en fonction du lieu dans lequel il pousse, de l'altitude, des vents, du climat, etc., le goût d'un Arabica d'Éthiopie n'est pas celui d'un Mocha de Colombie, par exemple.
Achetez votre café chez les petits torréfacteurs.
Exactement.
N'achetez pas des capsules. Faites vos capsules par des torréfacteurs. C'est meilleur, en plus, ça protège la planète et puis ça fait marcher.
C'est un art, la torréfaction du café.
Il faut penser, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la contre-pub, mais il faut penser à le goûter, le vrai café. Parce qu'aujourd'hui, il y a la fameuse machine qu'on a tous, elle est partout. Donc on a perdu le goût du café. Et si vous goûtez, vous allez voir, c'est différent et c'est bien meilleur, en fait.
Et il n'y a pas qu'une manière de faire du café. Tout le monde aujourd'hui a cette fameuse machine, mais on peut encore redécouvrir le café filtre, les systèmes à piston, la cafetière italienne.
Ça fait du très bon café.
Bien sûr, ça fait du très bon café.
Ça, c'est vraiment bon.
Prendre le café avant de dîner, il n'y avait vraiment qu'un Belge pour y penser.
Europe 1.
Olivier, vous restez avec nous car vous allez expliquer à Bruno Solo et nos auditeurs quoi concocter pour ce soir. Bon, on a compris que vous étiez fan de Caméra Café, mais comme vous venez de faire l'histoire du café en clin d'œil à la série de Bruno, vous n'allez quand même pas nous faire une recette à base de café. Ah oui,
je vais le rentendre avant la fin.
J'espère que vous
aimez le café. Je veux partir de l'émission avec ça, en mémoire.